Sedong.
Il est tout juste 4 heures en temps universel, 5 heures ici à Paris, et vous êtes bien sur la radio du monde. L'actualité internationale pendant une nouvelle demi-heure avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. À la une, un peu plus de 24 heures après le début du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, des dizaines de milliers de Libanais commencent à regagner le sud du pays, une région ravagée par les bombardements et où les besoins médicaux sont immenses. Le conflit au Proche-Orient, qui n'a pas épargné non plus les sites culturels libanais, nous verrons comment l'UNESCO fait pour évaluer l'ampleur des dégâts. Au sommaire également, le procès des viols de Mazan en France et le début des plaidoiries hier des avocats des 51 accusés et notamment de Dominique Pellicot, jugé pour avoir drogué et fait violer sa femme par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Et puis 4 ans après le coup d'État lors duquel Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé au Mali, la junte au pouvoir a évoqué hier des préparations en vue d'élections. Les détails dans ce journal. Et on commence donc ce journal au Proche-Orient, au Liban, où des dizaines de milliers de personnes commencent à rentrer chez elles depuis hier, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Une trêve qui reste fragile. Le mouvement soutenu par l'Iran qui proclame sa victoire a promis hier de poursuivre, je cite, la résistance face à Israël, qui a de son côté déclaré qu'il n'hésiterait pas à frapper en cas de violation du cessez-le-feu. Mais après 2 mois de guerre directe, les destructions sont immenses dans certaines régions et les besoins aussi, notamment dans le domaine médical. Le docteur Eli Haddad est président de la Euro-Libanaise Medical Society, une organisation qui regroupe plus de 800 professionnels de santé en Europe et qui soutient le Liban.
Bien sûr, il y a des besoins énormes parce que cette dernière bataille n'a pas épargné du tout les hôpitaux, les centres médicaux, les dispensaires. Il y a eu beaucoup de dispensaires qui ont été détruits complètement. Il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas pu faire le boulot. Il y a plus d'un million de déplacés. Donc, il y a des besoins énormes actuellement dans le cadre d'une crise économique hors pair, comme vous le savez, au Liban actuellement. Donc, les besoins sont énormes pour assurer les soins, même les soins de base. Tant qu'il y a des besoins qui se ressentent sur le terrain, on continue à envoyer tous les produits de première urgence, les compresses, les bétadines, les soins parce qu'il y a des blessés, etc., tous les médicaments pour les soins chroniques, mais là, les médicaments, c'est un peu compliqué à avoir. On ne peut pas avoir facilement, on ne peut pas acheminer facilement. On a aussi beaucoup de besoins en produits d'hygiène. Tout ça, c'est un énorme besoin.
Des propos recueillis par Muriel Paradon. Et ce conflit au Proche-Orient, il n'épargne pas non plus le patrimoine culturel de la région. L'ampleur des bombardements inquiète du côté de l'UNESCO, qui a déjà placé il y a une dizaine de jours 34 biens culturels du Liban sous protection renforcée. Mais la surveillance ne s'arrête pas là. À l'aide du service de cartographie par satellite des Nations Unies, l'agence tente de vérifier si des sites protégés ont été bombardés. À Genève, Jérémy Lanche.
L'UNOSAT n'est pas le service le plus connu des Nations Unies, mais c'est sans doute le plus surmené. 4 analystes pour surveiller l'intégrité de tous les sites culturels dans toutes les zones de conflit du monde. Ici, Michel de Gruchy a sous les yeux une image satellite récente des ruines antiques de Baalbek dans la plaine de la Bekaa libanaise.
Vous voyez cette zone un peu grise là ? C'est parce qu'il y avait un bâtiment qui a été bombardé. Et on voit que des débris et de la poussière ont été propulsés sur le site antique de Baalbek. Il faudrait que quelqu'un puisse confirmer sur place, parce que si je vois qu'il y a des dégâts potentiels, je ne peux pas l'affirmer.
Et souvent, les gardiens des sites concernés ont fui les bombardements, d'où le recours aux images satellites. Et ce n'est pas leur seul avantage, explique la responsable des situations d'urgence à l'UNESCO, Christa Picat.
On utilise les images satellitaires pour vérifier s'il y a des dommages et aussi de compiler une documentation pour après reconstruire si c'est nécessaire.
Baalbek fait partie des 34 sites libanais placé sous protection renforcée de l'UNESCO. Ça veut dire que les bombardés peuvent être considérés comme un crime de guerre. Leurs coordonnées ont été transmises à Israël. Israël qui fait partie des signataires de la Convention de la Haye de 1954 qui protège les biens culturels en temps de conflit armé. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Et notez aussi que Joe Biden, le président américain, va une nouvelle fois tenter de parvenir à un cessez-le-feu et à la libération d'otages à Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier son conseiller à la sécurité, qui indique qu'il prendra contact avec la Turquie, le Qatar, l'Égypte et d'autres acteurs de la région, alors que 9 personnes ont été tuées hier dans une frappe israélienne sur la ville de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Retour en France au procès des viols de Mazan. Le verdict doit constituer un message d'espoir pour les victimes de violences sexuelles. C'est ce qu'a affirmé hier l'accusation devant la cour criminelle du Vaucluse après avoir requis des peines allant de 4 à 20 ans de prison contre les 51 accusés, dont Dominique Pellicot, pour avoir drogué sa femme et l'avoir fait violer par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Les plaidoiries se poursuivent. Aujourd'hui, Jean-Pierre M., seul accusé à ne pas être renvoyé pour le viol de Gisèle Pellicot, mais de sa propre femme. En ayant suivi le modèle de Dominique Pellicot, il est le deuxième gros accusé dans cette affaire. Leurs deux avocats ont été les premiers à plaider hier, compte rendu d'audience avec Tanita Fallet.
Dans des styles très différents, Maître Zavaro, très posé, un texte long et structuré, a plaidé pour l'autre Dominique, l'humain derrière le pervers.
Sa femme a fait tout pour le réconcilier avec son passé et que l'ennui, la retraite a fait que tout est remonté, qu'il n'a jamais été guéri de son passé. Voilà ce que c'est Dominique Pellicot, jamais guéri de son passé.
Elle a également exprimé beaucoup d'empathie envers sa victime, Gisèle Pellicot.
Cette qualité de partie civile lui a été imposée par Dominique Pellicot, donc il était important qu'elle sache que malgré le combat que je mène à ses côtés à lui, et bien à un moment donné, il fallait qu'elle soit compensée dans sa douleur et dans la trahison qu'elle a subie.
C'est une toute autre méthode qu'a choisi Maître Gontard. Il représente Jean-Pierre M., 17 ans de prison requis à son encontre. Pas de notes pour ce ténor du barreau d'Avignon, des mots prononcés forts, des digressions et un mot d'ordre, critiquer la dimension qu'a pris ce procès.
Elle a dépassé tout le monde. Hein. Le risque, c'est qu'elle emporte tout le monde et qu'elle emporte aussi l'opinion. Je crois qu'il faut rester dans un procès, uniquement dans un procès.
Une plaidoirie très portée sur ce qui se passe en dehors de la salle d'audience, donc, tout en rappelant, là aussi, l'enfance traumatisante de son client. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Et le verdict ne devrait pas être rendu avant le 20 décembre pour les 51 accusés. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, a entamé hier sa première visite en Afrique subsaharienne, une tournée au Tchad, en Éthiopie et au Sénégal, où il représentera la France à la cérémonie du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs par les forces coloniales françaises. Aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères doit rencontrer les réfugiés soudanais, les autorités tchadienne. Objectif, s'assurer que les 2 milliards d'euros débloqués lors d'une conférence organisée en avril dernier à Paris sont bien suivis des faits. Au Mali, des élections sont-elles en préparation? Les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 en parlent. Aucune date n'est fixée pour le moment, mais le chef de la junte a invité le gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées. La correspondance de Serge Daniel.
L'annonce a été faite au premier conseil des ministres auquel participait le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et les membres du gouvernement remanié. Il n'y a pas encore de date officielle fixée et on ne connaît pas pour le moment l'ordre chronologique des scrutins que le chef de la junte souhaite transparent, apaisé et qui devrait mettre fin à la transition. Initialement, les militaires maliens, sous la pression internationale, s'étaient engagés à céder le pouvoir aux civils en mars 2024. Ils sont revenus sur cette promesse sans fixer de nouvelles échéances. Si cette fois-ci ils tiennent promesse, l'actuel Premier ministre, qui détient également le portefeuille de l'administration territoriale, sera le pivot de l'organisation des élections. Le général Assimi Goïta, chef de la junte, est pressenti comme probable candidat à une future présidentielle. Avant d'être débarqué de la primature, le désormais ex-Premier ministre, le ministre Choguel Maïga avait laissé entendre que 100 partis politiques maliens pro-junte ont discrètement reçu leur agrément, ajoutant pour probablement battre campagne. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Alors que le ministère de la Défense taïwanais indique ce matin avoir détecté 2 nouveaux ballons chinois près de l'île ainsi que 13 avions et 7 navires militaires depuis hier matin, l'armée indique avoir déployé ces dernières heures des avions de chasse, des navires et des systèmes de défense antimissiles pour des exercices. Objectif, tester les procédures de réponse et d'engagement des unités de défense aérienne. L'actualité nous conduit maintenant en Suède puisque le pays fait finalement machine arrière. Il renonce à l'implantation de 13 projets de parcs éoliens en mer Baltique. En cause, la menace russe. L'armée suédoise, désormais membre de l'OTAN, s'inquiète de risques inacceptables pour la défense du pays et de ses alliés. Éclairage avec l'experte de la Suède à l'Institut catholique de Paris, Sophie Enos-Attali.
Ces fermes éoliennes, en fait, elles consistent en turbines qui sont sous la mer, qui sont assez imposantes hein, par leur taille, qui tournent. Hein. Et donc, il y a la crainte, en fait, que par leur taille, par leur mouvement, ces turbines, elles interfèrent avec les radars, les capteurs sous-marins, et donc elles mettent en difficulté la surveillance militaire sous-marine. Les installations qui ont été rejetées, elles se situent non loin de l'île d'Hollande, qui est une île dont la situation stratégiquement extrêmement sensible. C'est une île qui n'est pas très loin de Kaliningrad, qui a été remilitarisée par la Suède il y a quelques années, dans les années qui ont suivi l'annexion de la Crimée par la Russie, lorsque la Suède a senti que la Russie était dans une approche, on va dire, plus agressive. Et donc, il s'agit vraiment d'avoir aucun obstacle autour de l'île d'Hollande, de pouvoir vraiment contrôler tout le territoire de la Suède.
Sophie Nocatelli, interrogée pour RFI par Théo Renaudon. Notez que l'armée ukrainienne a déclenché ce matin une alerte aérienne nationale en cause des tirs de missiles russes qui ont visé les régions d'Odessa, de Kherson et de Mykolaïv. La Russie, où les voyants sont au rouge pour l'économie, inflation à 8,5%, soit deux fois plus que l'objectif officiel, malgré un taux record de la Banque centrale à 21%. Et bien maintenant, c'est le rouble qui va mal. Il perdait régulièrement de la valeur depuis cet automne. Mais depuis l'intensification du conflit avec l'échange de missiles, les nouvelles sanctions prises contre la Russie par les États-Unis depuis environ une semaine, la glissade de la monnaie nationale face au dollar et à l'euro est spectaculaire. Les précisions d'Anissa El-Jabri.
Nous regardons le cours du rouble et nous nous disons que nous allons devoir passer nos vacances du nouvel an en excursion sur le périphérique à Moscou. Voilà le genre de message qu'on pouvait lire encore ce mercredi sur les réseaux sociaux en Russie. On y parle désormais de « vendredi noir » pour la monnaie nationale quasiment tous les jours. Évidemment, le Kremlin ne s'est pas privé de faire ce rappel. L'immense majorité des Russes est payée en rouble et dépense en rouble. Cela n'aura pas d'impact sur eux, juste tant le nombre de ceux qui peuvent se permettre encore de voyager déjà peu élevé avant la guerre, s'est réduit, sanctions et difficultés de visa aidant. Signe pourtant que la situation macroéconomique est sérieuse, la Banque centrale a sorti les freins d'urgence. Elle a annoncé ce mercredi stopper tout achat de devises étrangères sur le marché d'échange et ce, jusqu'à la fin de l'année pour, je cite, « tenter d'enrayer au maximum la chute du rouble ». Le cours de la monnaie nationale est désormais très près de mars 2022, quand l'économie prenait de plein fouet la guerre et le choc des sanctions. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Faible croissance, hausse des prix, la Russie face au risque de stagflation. Ce sera le thème d'aujourd'hui, l'économie, à 6h16 en temps universel, 7h16 à Paris, avec Stéphane Genest sur RFI. On termine avec le foot et la fin hier soir de la 5e journée de la Ligue des Champions. Victoire sans appel de l'Étoile Rouge de Belgrade, 5 buts à 1 face à Stuttgart. Match nul entre Aston Villa et la Juventus, ainsi que pour le Celtic Glasgow Bruges. Le Sturm Graz s'est imposé 1-0 sur Gérone. Victoire 3-2 pour le PSV Eindhoven contre le Shakhtar Donetsk et pour le Benfica face à Monaco. 2 buts à 1 pour Lille qui était à Bologne. Et le choc de la soirée, il se déroulait en Angleterre entre Liverpool et le Real Madrid. À l'arrivée des merengues, ils n'y ont vu que du rouge, Eric Mamrut.
Le Real Madrid n'y arrive plus en Ligue des Champions. Deuxième défaite consécutive pour le tenant du titre. Il y a 3 semaines, la Maison Blanche avait pris l'eau à domicile face au Milan AC, vainqueur 3-1. Cette fois, c'est à Liverpool qu'elle s'est fissurée sous les yeux du tout frais retraité Rafael Nadal. Défaite 2-0 pour son équipe favorite, totalement dépassée par des Reds incandescents en ce moment. Les leaders de la Première Ligue et de la Ligue des Champions ont en effet survolé les débats, multipliant les occasions. Sans réalisme en première période, mais ensuite, Alexis McAllister et Cody Gakpo ont trouvé l'ouverture face à un Real Madrid qui aurait pu se relancer à l'heure de jeu si 1-0 Kylian Mbappé n'avait manqué le pénalty de l'égalisation. Maigre consolation pour le Français, encore transparent ce mercredi soir. Mohamed Salah en a lui aussi raté un 10 minutes plus tard. Liverpool engrange donc une 5e victoire consécutive dans cette phase régulière. Pour Madrid, c'est déjà une 3e défaite, en comptant celle encaissée à Lille début octobre. Le vainqueur sortant seulement 24e au classement et dernier barragiste. La crise pointe au Real, même si ses 3 derniers matchs à Bergame face à Salzbourg et à Brest semblent nettement à la portée du recordman de sacre en Ligue des Champions.
Eric Mamrut, la 6e journée de la Ligue des Champions qui débutera donc le 10 décembre. Le Real Madrid sera reçu par l'Atalanta Bergame. Il est 1h14 à Rio de Janeiro, 4h14 à Londres et en temps universel, 5h14 à Paris.
Alban Le Prince.
Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RFI. Au programme de ces 20 prochaines minutes, nous irons au Brésil où ce rapport de plus de 800 pages accablant pour l'ancien président Jair Bolsonaro fait beaucoup parler. Il est accusé d'avoir participé activement à un projet de coup d'État pour renverser l'actuel chef d'État. Le Royaume-Uni, lui, se penche sur une question aussi simple que complexe. Qu'est-ce qu'une femme ? La Cour suprême britannique est appelée à trancher sur ce sujet. L'invité culture du jour est américaine. Autrice d'une centaine de livres, elle est actuellement en région parisienne pour le salon du livre et de la presse jeunesse. C'est Suzy Morgenstern, le conseil santé. On s'intéressera à un sujet qui touche beaucoup de monde, les problèmes capillaires et la chute de cheveux avec Caroline Paré. Et puis le choix de la programmation musicale de RFI aujourd'hui, c'est Tasia Reis avec Soum Tempo. Le reportage international du jour nous conduit donc au Brésil où l'ex-président Jair Bolsonaro a participé activement à un projet de coup d'État après sa défaite et avait aussi pleinement conscience d'un projet d'assassinat de Lula en 2022. C'est ce qui ressort d'un rapport policier de plus de 800 pages dévoilé mardi et remis au parquet. Une nouvelle affaire qui divise les Brésiliens, Sarah Cozzolino.
Pour ses soutiens, Jair Bolsonaro est victime d'un gouvernement de la vengeance. Selon Leandro, l'actuel président Lula, qui a lui-même passé du temps en prison, cherche à condamner son rival par tous les moyens.
Je pense qu'il s'agit de persécution politique. Et je dis ça, mais je suis ouvert d'esprit. Je suis prêt à entendre qu'il y a effectivement des réunions militaires qui voulaient attenter à la démocratie. Mais selon eux, c'était justement un acte en faveur de la démocratie. Parce que pour eux, ils n'étaient pas en train de fomenter, mais plutôt de subir un coup d'État.
Ce professeur de sport fait référence à l'opération Poignard Vert et Jaune, imaginée au lendemain de l'élection 2022 par quelques militaires haut gradés qui n'ont pas accepté la défaite de Jair Bolsonaro. 4 militaires et un policier ont été arrêtés le 19 novembre pour tentative d'assassinat de Lula, son vice-président et le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes. Leandro admet que Jair Bolsonaro ne peut pas être tout à fait innocent.
Je pense qu'il savait, mais qu'il n'a soutenu aucun crime. Il voulait faire les choses légalement.
2 ans après l'élection présidentielle, la polarisation politique divise encore les familles brésiliennes. Gabi a hâte de voir Jair Bolsonaro en prison, mais elle se garde bien d'en parler à son père, bolsonariste.
Je préfère me moquer de lui de loin. Son héros. Mais rire de loin, sinon le lien familial en prend un coup.
Son père est militaire et elle a pu observer chez lui ces dernières années un véritable discours de haine appelant à la mort de Lula ou du juge Alexandre de Moraes. Elle compare son soutien aveugle à Jair Bolsonaro à celui d'un amour qui rend aveugle.
Les gens voient bien que ce n'est pas une bonne personne, qu'il est toxique, mais ils parviennent toujours à voir quelque chose de positif chez lui.
Dans l'autre camp, l'implication directe de Jair Bolsonaro dans une tentative de coup d'État ne surprend pas. À 66 ans, Eliane sait qu'elle devra encore faire preuve de patience avant de voir l'ancien président derrière les barreaux.
J'attends encore de voir l'attitude du procureur général, la position de notre congrès, parce que pour l'instant, personne ne s'est manifesté publiquement. Étrange, non ? Les députés et les sénateurs sont muets. Pourquoi ?
Publié en fin d'année avant les longues vacances parlementaires et judiciaires, il est probable que le procureur général n'analyse ce dossier qu'en 2025. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
On en vient à présent à cette question. Qu'est-ce qu'une femme ? Question banale, mais qui préoccupe la Cour suprême britannique. Elle a été saisie par un groupe féministe écossais. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Londres. C'est une affaire très polémique chez vous et assez complexe. Alors vous allez nous expliquer comment on en est arrivé à cette bataille judiciaire. Mais d'abord, la question paraît tellement simple. Qu'est-ce que la Cour suprême doit trancher ?
Bien, la Cour suprême doit déterminer ce que veut dire le mot « sexe » dans un cadre légal. Est-ce qu'il s'agit du sexe biologique, les attributs génitaux avec lesquels chacun naît et grandit, ou bien est-ce que cela prend en compte le genre, c'est-à-dire ce à quoi on s'identifie ? Vous savez, certaines personnes ne se reconnaissent pas dans le sexe qu'on leur a attribué à la naissance, elles sont ce qu'on appelle des personnes transgenres. Ici, au Royaume-Uni, il est possible de changer de genre légalement, mais il s'agit d'un processus très long et fortement médicalisé.
Mais alors comment est-ce que la justice s'est retrouvée à devoir trancher sur ce qu'est ou non une femme ?
Ça commence en Écosse. Chaque nation du Royaume-Uni possède une certaine autonomie législative et en 2018, le Parlement écossais fait voter une loi pour que les femmes soient davantage représentées dans les entreprises publiques. Ça inclut les femmes transgenres, les personnes nées dans un corps d'homme mais qui se sentent femmes. Cette réforme, elle a été contestée devant les tribunaux par un groupe féministe, For Women Scotland, qui estime que la loi doit s'en tenir aux faits biologiques. Leur crainte, c'est que des hommes effectuent la démarche de changement de genre afin de prendre la place réservée aux femmes. Ça s'applique dans le cas des quotas en entreprise, mais selon elle, cela va bien plus loin. Par exemple, les espaces non mixtes, comme les vestiaires dans les salles de sport ou même les refuges pour victimes de violences conjugales. Autre argument, l'identité de genre, c'est l'une des caractéristiques protégées par les lois anti-discrimination. Vous ne pouvez par exemple pas être licencié au prétexte que vous êtes transgenre. Et le groupe For Women Scotland s'inquiète de l'instrumentalisation de cette caractéristique. À noter tout de même, la justice écossaise a pour l'instant rejeté leur recours.
Alors Emeline, cette décision, on pourrait ne pas l'avoir avant plusieurs semaines. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle s'appliquera à tout le Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement ?
Dans un sens comme dans l'autre, cela va apporter de la clarté. Les autorités locales, les services publics à travers tout le pays demandent des éclaircissements depuis des années sur l'interprétation à faire de la loi, comment ça se traduit concrètement, par exemple dans les hébergements d'urgence ou à l'hôpital, qui doit être considéré comme une femme ou comme un homme. Suivant le jugement de la Cour suprême, le Parlement pourrait aussi décider de réviser ses lois en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations, de créer une distinction entre personnes cisgenres et transgenres, ce qui fait craindre aux minorités d'être davantage stigmatisées et surtout de rouvrir un débat qui s'avère souvent très toxique ici au Royaume-Uni.
Merci beaucoup Emeline Vin, correspondante de RFI à Londres. L'invité culture du jour, c'est une autrice puisque le salon du livre et de la presse jeunesse s'est ouvert hier à Montreuil, près de Paris. Pendant une semaine, petits et grands vont pouvoir y découvrir l'ensemble des parutions pour jeunes lecteurs et rencontrer les auteurs. Et pour sa 40e édition, le prix La Grande Ourse a été décerné à la star de la littérature jeunesse. Suzy Morgenstern, née aux États-Unis en 1945, elle a publié plus d'une centaine de livres et son œuvre est loin d'être terminée. Elle s'est confiée à Sophie Dorlotin.
Suzy Morgenstern, bonjour.
Bonjour.
La Grande Ourse qui vous est décernée consacre une œuvre de plus de 150 livres, dont beaucoup sont traduits en une trentaine de langues. Alors, le français n'est pas votre langue maternelle puisque vous êtes née aux États-Unis. Est-ce que vous avez toujours écrit en français ?
Depuis que je suis en France, ça fait 57 ans, j'ai tout de suite commencé à écrire en français. Je parlais pas le français quand je suis arrivée, mais mes enfants parlaient français entre eux. Et mes enfants sont responsables de ma carrière dans l'écriture de livres pour enfants.
C'est pour vos enfants, donc vos deux filles, que vous avez commencé à écrire ces histoires ?
C'est mes deux filles qui m'ont inspiré les histoires. Beaucoup des histoires d'école, de la vie quotidienne. Moi, je suis furieusement amoureuse de la France. Je trouve que c'est vraiment, mais vraiment, le pays d'exception culturelle. Et Montreuil est un exemple de faire venir des milliers de gens pour acheter des livres et rencontrer des auteurs. C'est unique au monde.
Vous disiez, Suzy Morgenstern, que vous avez donc commencé à écrire à partir du matériau apporté par vos filles. Maintenant, vous êtes grand-mère.
Arrière-grand-mère.
Donc ça continue ?
J'écris en ce moment beaucoup de livres pour bébés. Alors oui, mes filles m'ont toujours inspirée. Je n'aimais pas l'école en France. Je trouvais que c'était trop d'école, trop de devoirs, trop de tensions. Et beaucoup de mes histoires parlent de l'école parce que j'étais frappée par l'école en France. Moi, américaine, j'étais la joyeuse école, quasiment sans devoirs. Alors j'étais choquée par ça. Ça, c'était mon choc culturel.
L'un de vos best-sellers, c'est le livre intitulé « La sixième », publié, je crois, pour la première fois en 1984. Et maintenant, en fait, ce sont plusieurs générations d'enfants qui ont lu ce livre-là.
Oui, et dans les fêtes de livres, les mères et même les grands-mères viennent me dire « Oh, j'ai lu ce livre quand j'étais en sixième, maintenant je le passe à ma fille. » Et c'est très émouvant pour moi.
Nos auditeurs ne peuvent pas vous voir, Suzy Bergenstern. Malheureusement, vous avez une magnifique robe rose, presque fluo. Des lunettes aussi en forme de cœur avec des verres roses. Vous êtes optimiste par nature, mais aussi par volonté.
C'était une très mauvaise année, cette année. Guerre, stress, Trump... Mais oui, ma petite vie est rose parce que je m'amuse à écrire des histoires qui me font rire, que j'espère font rire les lecteurs. J'idolâtre la vie. Je travaille comme quelqu'un qui sait qu'on n'a pas tout notre temps devant soi. Alors là, au lieu d'une sortie cet automne, j'ai au moins 10 livres qui sortent. On me dit que je publie trop, mais que faire? C'est tout ce que je fais. Je me lève le matin et je travaille.
Vous écrivez tous les jours?
Tous les jours, sauf cette semaine à Paris. Mais tous les jours, oui. Tous les jours, y compris dimanche, y compris les vacances. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Suzy Morgenstern, merci.
Suzy Morgenstern au micro, RFI de Sophie Torlotin.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et le conseil santé du jour, il concerne beaucoup de personnes, hommes comme femmes. On parle des problèmes capillaires, la chute de cheveux par exemple. Caroline Paré les évoque avec son invité.
Docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à PHP à Paris. Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la chute des cheveux ?
Alors, ce qui favorise la chute de cheveux, c'est mille choses, dans le sens où la chute de cheveux, c'est un symptôme. C'est comme si on parlait du mal au ventre ou autre chose. Et donc, quand on a quelqu'un qui vient consulter pour un problème de chute de cheveux, il va tout de suite avancer toutes les hypothèses, toutes les théories, tout ce qu'il a pu lire. Et il faut reprendre à zéro et avoir une espèce d'algorithme dans la tête qui va faire que, est-ce que c'est une chute dans laquelle il y a une perte de cheveux? Est-ce que ça crée une alopécie? Donc, il y a un manque de cheveux? Ou est-ce que c'est juste une chute? Depuis combien de temps ça dure? Quelle est l'ascendance ethnique de la personne en question, puisque ça donne une orientation pour certaines pathologies. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc., etc. Et donc, on arrive à des diagnostics ou un diagnostic, des éliminations de diagnostics, et on voit s'il y a besoin de faire des examens complémentaires ou pas d'examens complémentaires, c'est-à-dire une prise de sang, un prélèvement de peau, etc. Et donc, c'est un terrain extrêmement vaste au début, et les vieilles théories qui étaient les théories un peu comme si le cheveu c'était comme du gazon dans lequel on met de l'engrais et ça pousse, les vitamines, les piqûres dans les fesses et autres, ça n'a vraiment aucun sens par rapport à la physiopathologie d'un problème de chute de cheveux.
Merci docteur Assouli. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler du métier de sage-femme, formation, savoir, compétence de cette profession dédiée au suivi de la grossesse, de l'accouchement et à l'accompagnement postnatal. Sage-femme, un rôle clé pour la santé des femmes et de l'enfant. Témoignages, reportages, 9h10, 1h10, temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Le rendez-vous est prêt, Caroline Paré. Le choix de la programmation musicale de RFI ce matin, c'est une brésilienne, Tássia Reis, rappeuse, chanteuse, compositrice. Installée depuis 10 ans dans le paysage musical brésilien, elle est de retour avec Topo da Minha Cabeça, son nouvel album. Et sur RFI ce matin, on vous fait découvrir le premier extrait, Som Tempo.
Preciso de tempo só, só tempo, tempo e só, só e só, tempo só, só tempo, tempo e só. Preciso de tempo só, só tempo, tempo e só, só e só, tempo e só, só tempo, tempo e só.
A gritaria do mundo não se cala, e a bala a minha gritaria interior. Sinfonia, me descompasse, nunca passa minha dor.
Preciso de tempo só, só tempo, tempo e só, só e só, tempo só, só tempo, tempo e só. Preciso de tempo só, só tempo, tempo e só, só e só, tempo e só, só tempo, tempo e só.
Acabou por mim
entorpecer meus ideais. Adolescentes não podem adoecer, considerando que o ser humano é falho. Ideia de que posso ser melhor é mesmo talho. E repito, sem medo de dizer, eu disse, eu me demito. Fazer o que eu não quero, eu não admito. Com o mesmo pensamento fico. Se não fizesse as coisas que fiz, me diz o que teriam dito? Minha vontade aplico, às vezes me suplico. Ideias boas nascem do conflito. Do caos nascem as estrelas. A percebê-las, enaltecê-las, eu vivo, eu me dedico. Pois minha incerteza incerta me assenta e me completa. Escurece minha clareza dos sentidos. Onde a cada descoberta rejeita oferta de mim que tudo poderia ser tão resumido. É, não comigo.
Preciso de um belo sol.
Tassia Reis avec Zoom Tempo sur RFI, un titre en programmation sur RFI Musique et sur les plateformes.